Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Didier, tu te souviens qu'aujourd'hui, on repart sur les traces de l'un des plus grands explorateurs du XXe siècle cette fois,
d'accord,
après Marco Polo,
okay,
un vrai symbole du voyage.
Ouais.
Et cet explorateur est une femme, c'est Alexandra David-Neel. Et ensuite, Didier, tu nous expliqueras ce que sont les hikikomori.
Voilà.
Alors, un syndrome social toujours présent au Japon,
oui,
et bien inquiétant.
Oui, tout à fait, on peut dire ça.
Alors, aujourd'hui, pourquoi parler spécialement d'Alexandra David-Neel? Eh bien, parce que l'on fête le centenaire de son entrée à Lhasa, au Tibet. C'était en février 1924. Alors,
d'accord,
un véritable
100 ans,
exploit.
Alors.
Car Alexandra fut la première occidentale à pénétrer dans la cité interdite de Lhasa, la capitale du Tibet. Mais en dehors de cet exploit, qui l'a fait connaître au monde entier, Alexandra était une femme exceptionnelle à plus d'un titre. C'était une aventurière, philosophe, pionnière, bouddhiste, franc-maçonne, et j'en passe, et une grande orientaliste. Une très grande écrivaine aussi, et une traductrice hors pair.
Elle a eu 1000 vies, cette dame.
C'est ça. Au moins.
D'accord.
Moins, okay. C'est vrai. Elle a été aussi, pendant la première partie de sa vie, cantatrice, journaliste, anarchiste et féministe engagée. Alexandra est née le 24 octobre 1868 à la fin du Second Empire et elle est morte centenaire en 1969 à Digne.
Elle dans le voyage, ça conserve. Hein.
Elle a donc, oui, traversé un siècle entier.
Ah, c'est beau.
Dans une grande période de transformation de la société. Et vous allez découvrir, chères auditrices et auditeurs, qu'Alexandra, comme disait Didier, qu'elle a eu plusieurs vies dans une, oui, quasiment 1000 vies. Donc en résumé, pour déjà planter, je dirais, le portrait d'Alexandra, c'était un esprit libre dans une époque où le rôle des femmes était très conventionnel et où voyager seule était inconcevable.
Plutôt, oui. Bon, alors du coup, est-ce qu'elle a eu une éducation particulière alors pour en arriver là? Dans quel milieu elle a vécu?
Alors... Bon, elle avait un nom à rallonge, Alexandra. Elle s'appelait en fait Louise Eugénie Alexandrine Marie David. David étant le nom de son père.
D'accord.
Et elle était surnommée Nini, connue ensuite sous le nom d'Alexandra David-Neel, Neel étant son nom de femme.
Mmh.
Elle est née à Saint-Mandé, près de Paris, en 1868, comme je le disais, d'un père français, ex-instituteur, protestant, devenu journaliste républicain, ami d'Élisée Reclus.
Ah, Élisée Reclus. Alors moi, j'ai travaillé un peu, j'ai découvert.
T'as travaillé,
j'avoue,
un peu, Didier, sur,
oui,
Élisée Reclus.
Eh
alors
oui,
qu'est-ce que tu peux nous
dire? J'ai été surpris par cet homme qui avait aussi pas mal de facettes et surtout une qui m'a touché particulièrement. Mais c'est un avant-gardiste de l'écologie, cet homme-là. Et les théories qu'il a déjà mis en place sont d'actualité aujourd'hui. Vraiment, j'ai été surpris. Ne connaissant pas, j'ai trouvé cet homme vraiment formidable. Je comprends qu'on puisse avancer avec un tel biberon dans les mains et aller de l'avant après.
Tout à fait. Et donc, son père, donc ami d'Élisée Reclus, est d'une mère belge, catholique, très pieuse, des opposés, on pourrait dire. Mais bon, revenons à son père. Son père était donc, comme on peut le comprendre, un homme engagé et il a très tôt initié sa fille à la politique. Donc, en 1874, les David s'expatrient à Bruxelles et Alexandra apprendra le piano et le chant et va lire Jules Verne. Très déterminant, ses lectures.
Mmh.
Et elle rêvait déjà, forcément, de pays lointains, d'autant plus que son père lui avait offert un atlas.
Oui, c'était une famille moderne, quand même.
C'était une famille très moderne. 1874, c'est quand même pas
voilà,
hier.
Voilà, pour l'époque, je trouve que la démarche éducative qu'il a eue avec sa fille était quand même très moderne et intéressante, quoi.
Tout à fait. Surtout qu'Alexandra était plutôt une adolescente tourmentée et qu'elle va même fuguer, elle va profiter de vacances à Ostende avec ses parents pour aller en Angleterre. Mais bon, ça s'est arrêté, je pense, à Calais, parce qu'elle avait pas assez d'argent pour s'offrir la traversée.
Oui.
Alors, durant toute son enfance et son adolescence, elle va, côtoyer Élisée Reclus, Didier. Mm-hmm. Et ça va l'amener à s'intéresser aux idées anarchistes et féministes de l'époque. Alors, 2 ans après sa première fugue, elle récidive et part pour la Suisse et l'Italie.
Elle est tenace.
Elle est tenace, en franchissant à pied le col du Saint-Gothard, toute seule.
Eh oui, plus de 2000 mètres quand même. Déjà, elle aimait la marche en altitude un petit peu.
Elle aimait la marche en altitude et puis elle était très jeune. Hein, oui. Elle avait bien moins de 20 ans. Et ses parents, finalement, ne l'ont pas trop grondée. Hein.
D'accord.
Alors plus tard, lors d'un séjour à Paris en 1889, elle a donc 21 ans, Alexandra, elle va visiter le musée Guimet. Et ah. C'est là que va naître sa vocation d'orientaliste. Puis elle partira à Londres pour étudier les philosophies orientales et apprendre l'anglais, indispensable au voyage, ainsi que le sanskrit et le tibétain.
Oui, elle était quand même très très forte, cette femme.
Très très forte, Alexandra. Elle s'était sûrement une surdouée.
Je peux comprendre qu'on soit subjugué par le musée Guimet. Moi-même, je le suis encore aujourd'hui. Donc, sa carrière de cantatrice, alors dans tout ça, parce qu'elle chantait, et quand elle va commencer ses voyages.
Alors, bah, il faut se rappeler qu'Alexandra prenait des cours de chant quand elle était petite, hein, du piano. Elle était douée et elle a gagné des prix, tant et si bien que pour aider ses parents qui avaient des revers de fortune, elle est devenue chanteuse lyrique.
D'accord.
Et avec succès, elle a chanté tous les grands airs de l'opéra et très très bien.
Ah oui.
Et pendant plusieurs années, elle va, grâce à ça, acquérir une indépendance financière et elle va triompher en chantant à l'opéra d'Hanoï, à l'opéra de Paris, à l'opéra d'Athènes.
Oui, elle a quand même parcouru.
Oui, c'était une
pas
vraie
une petite
chanteuse
cantatrice,
lyrique.
Oui, d'accord.
Et son parcours hors du commun va l'amener à l'opéra de Tunis, où elle rencontrera en 1900 son futur époux, très important pour elle cet homme, Philippe Nel, un dandy fortuné. Et ils se marieront en 1904. Bon, je tiens quand même à préciser qu'entre 1900 et 1904, Alexandra avait pris Philippe pour amant. Hein. Ils étaient quand même très, très proches. Bon, quand elle s'est mariée, Alexandra n'était plus une jeunette, surtout pour l'époque. Elle avait 36 ans.
Se marier à 36 ans à l'époque, c'était déjà
C'était très tard.
Hein, oui, voilà.
Voilà, donc c'était un couple très moderne, hein, sans doute un
On
peu.
On peut l'imaginer. Oui.
Et Philippe va laisser partir Alexandra pour un voyage d'études de 18 mois en Inde.
Ouais, quelle indépendance quand même.
Il faut souligner que la vie de femme au foyer n'était pas compatible avec la personnalité d'Alexandra, qui ne reviendra, et ça je le souligne, que 14 ans plus tard, accompagnée d'un jeune lama, son compagnon d'exploration, qui s'appelle Yongden, enfin qui s'appelait Yongden, qui deviendra son fils adoptif.
Ok, oui, bah...
On peut imaginer que Philippe, il soit qu'à moitié content, 18 mois, d'accord, mais là,
ça
c'était
14 ans.
Ans.
Ça fait pas pareil quand même, oui, effectivement.
Voilà. Alors, après quelques jours de vie commune, Philippe et Alexandra vont se séparer et Alexandra repartira en Asie avec Yongden. Et Philippe, grand admirateur, amoureux d'Alexandra, va la soutenir financièrement tout au long de sa vie, dans ses voyages, dans ses errances, on peut dire aussi, jusqu'en 1941. Et pourquoi ? Bah parce qu'il va mourir en 1941.
D'accord.
Et bah leur correspondance est éditée, d'ailleurs, hein, ils vont échanger, elle va beaucoup lui écrire et lui aussi. Ils vont échanger plus de 3000 lettres.
Une belle histoire, malgré tout.
Une très belle histoire.
D'accord.
C'est vrai.
Et alors du coup, elle ne devait pas partir très très longtemps, elle est restée
18 mois,
14 ans
oui.
d'absence. Elle a fait quoi pendant ces 14 ans ?
Alors, pendant ces 14 ans, c'est long 14 ans quand
même. Un petit peu quand même.
Elle a bien sûr voyagé, étudié, écrit, publié, médité et suivi les enseignements bouddhiques. Et elle a obtenu le titre très honorifique de lampe de sagesse. En 1912, elle a fait un pèlerinage à Calcutta, à Bénarès et visité le Népal. En 1914, elle est au Sikkim et c'est là qu'elle va engager Afur Yongden, âgé de 14 ans. Et ce jeune serviteur tibétain, qu'elle va rapidement considérer comme son fils, ne la quittera plus jamais.
D'accord.
Alors pendant ce séjour dans l'Himalaya indien, elle réussira même à rencontrer le Dalai Lama, le prédécesseur du Dalai Lama actuel. Mmh. Et ça, c'est quand même vraiment incroyable.
Oui.
Et elle sera, peu de temps après ça, consacrée maître bouddhiste tibétain. Alors en 1914, c'est la guerre en Europe,
voilà,
la Première Guerre mondiale. Et ne pouvant rentrer, Alexandra et Yongden quitteront le Sikkim pour l'Inde, puis le Japon, la Corée, et iront à Pékin. Et de là, ils vont décider de traverser la Chine d'est en ouest.
Ah, tout de même.
Leur périple va durer plusieurs années.
Ben, on peut comprendre, d'est en ouest, ça fait quand même
voilà,
quelques kilomètres.
Voilà, surtout à pied.
Ouais. Hein.
Et aller vers le Tibet interdit et sa mythique capitale Lhasa est depuis longtemps le rêve le plus cher d'Alexandra.
D'accord, c'était son but alors.
Ah, voilà, qu'elle n'a pas toujours dit tout de suite. Hein.
Okay.
Et donc, en 1923, et âgée de 56 ans, oui, forcément.
Oui, hein, oui, déjà.
Elle part donc à pied vers le toit du monde avec Yongden, depuis la région du Yunnan jusqu'à Lhasa. Alors, la région du Yunnan, c'est à l'est du Tibet.
Oui.
Et le Yunnan s'étend en fait du Tibet jusqu'à la mer de... Enfin, jusqu'à... je crois la Birmanie. Ça s'étend très au sud parce que le Yunnan, au sud du Yunnan, c'est tropical.
Mm-hmm.
Et au nord du Yunnan, c'est le massif de l'Himalaya.
D'accord. Hein.
Mais quand on est là, on n'est pas encore à Lhasa. Il y a du chemin à faire. Donc en attendant, je vous propose d'écouter une belle voix de l'Himalaya. C'est Dai Ching Tana et la chanson s'appelle Ong Mani Bamai. Et c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Écoutons.
Om Mani Padme
Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3 en compagnie d'Asialogie et puis on va redescendre un petit peu sur cette belle chanson qui nous est proposée par Dai Ching Tana. Pardon. Et là maintenant, en fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ont-ils pu rentrer dans Lhasa tous les deux?
Dans la cité interdite.
Oui, c'est ça, puisqu'elle est interdite. Donc.
Avant d'arriver, hein, comme je l'évoquais, ils ont dû marcher du Yunnan à Lhasa, soit 2000 kilomètres. On est à 4000 mètres d'altitude, il y a de la neige.
Oui,
hein,
c'est un peu...
Donc c'était une marche éprouvante et terriblement dangereuse, où ils vont risquer à chaque instant leur vie. La nature
était... Oui, elle a
passé
50 ans, enfin, c'est déjà...
Et, comme tu dis, oui, Alexandra avait 56
ans. Elle avait quand même une condition...
Pas toute jeune.
Condition physique qui était...
Voilà, puis elle n'avait pas les équipements d'aujourd'hui.
J'imagine bien.
Alors, ils s'étaient déguisés en mendiants, et vécu comme tel pendant de longues semaines pour passer complètement inaperçu et se fondre dans la foule des pèlerins.
D'accord.
Et pour cela, Alexandra avait ajouté une queue de yak à ses cheveux noircis à l'encre de Chine et elle avait recouvert ses mains et son visage d'un mélange de cendres et de cacao pour passer pour
mendiant,
un pèlerin.
C'est pas
pour
très,
un mendiant,
très... oui, forcément,
un homme.
Pas très propre, donc, voilà.
Puis d'avoir la même couleur que les autres.
Oui, bien sûr.
Enfin, le 28 février 1924, donc il y a exactement 100 ans, Alexandra et Yongden vont entrer à Lhasa en proclamant la phrase rituelle « Les dieux triomphent, les démons sont vaincus ». Et cela, aucune occidentale non plus, ne l'avait accompli.
D'accord.
Alexandra a été la première.
Oui.
Donc Alexandra et Yongden vont passer 2 mois à Lhasa, visitant la ville sainte et les grands monastères, avant d'être démasqués pour cause de trop grande propreté. Alexandra allait enfin, en effet, se laver à la rivière chaque matin.
Ah.
Elle et son guide pourront tout de même quitter Lhasa sans être inquiétées.
Bon, tant mieux.
Ce qui est... Je pense que la réputation d'Alexandra y est pour quelque chose, parce qu'elle était quand même très connue dans le monde du bouddhisme tibétain, puisqu'elle était elle-même grand maître.
On connaissait son respect pour tout ça.
Voilà, exactement. Puis en février 1925, ils retournent enfin pour l'Europe pour faire oublier leur récit, dont le voyage d'une Parisienne à Lhasa. Ça, c'est un livre exceptionnel que je vous recommande, chères auditrices et auditeurs. On le trouve partout. C'est un livre qui a eu un succès international très vite et qui fera connaître Alexandra comme écrivaine dans le monde entier. Bon, ça coûte pas cher, c'est moins de 7 euros, le voyage d'une Parisienne à Lhasa.
D'accord. Et alors, son retour en France, ça s'est passé comment ? Ça a dû être difficile quand même après tous ces périples.
D'après ce que j'ai lu, pas tant que ça, parce qu'avec ses livres, Alexandra est devenue riche et célèbre.
Ouais, ça aide.
Et en 1928, elle va s'installer avec Yongden dans une belle maison à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence.
Il y a pire.
Une maison qu'elle baptise Samten Djangu, forteresse de la méditation. Alors pendant une dizaine d'années, elle va continuer ses recherches de sa maison, et elle donnera des conférences en France, en Europe et aux États-Unis. Mais la vie d'aventure et l'Asie vont finir par manquer à Alexandra. Et en 1937, avec son fils, elle repart en Chine, en transsibérien cette fois. Elle avait vieilli un peu.
Hey, bah, Romain.
Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et ils vont rester en Chine encore pendant 9 ans.
Très bien, d'accord.
En 1946, ils rentrent enfin à Digne après la guerre. Mm-hmm. Alexandra a 78 ans.
Et oui, c'est, le temps passe, on ne se rend pas compte qu'elle finalement...
Elle finit par vieillir, notre
tout même,
Alexandra.
Malgré tout.
Et elle continue à écrire beaucoup malgré son âge. Mais Yongden mourra en 1955 et Alexandra va se retrouver seule et complètement pleine de chagrin.
Ouais, j'imagine
c'était
bien.
C'est le compagnon d'une vie, puis c'était son rêve. Voilà, donc beaucoup, il est mort beaucoup plus jeune qu'elle. Je crois qu'il avait 55 ans, je n'ai pas calculé sa date de naissance, il était beaucoup plus jeune qu'elle.
Ah, et perdre son fils, même s'il est adoptif, c'est toujours difficile.
Voilà.
Bah, alors, du coup, alors, ça a été quoi, la fin de sa vie ? Parce
alors,
qu'on n'est pas, au bout, là ?
Ben non, on n'est pas au bout. À la fin de ses jours, en 1959, à la fin de ses jours, on n'y était pas encore, c'était à la fin de sa vie, un petit peu, Alexandra va engager Marie-Madeleine Perronnet, qui va devenir sa secrétaire, et Marie-Madeleine va ensuite s'occuper d'Alexandra, qui va devenir un peu plus dépendante, et de la maison.
Ouais.
Alors, elles avaient quand même un projet, toutes les deux, d'effectuer un tour du monde en 4 chevaux. C'est quand même incroyable.
Ça s'arrête jamais.
Moi, je trouve ça vraiment magnifique.
Oui, moi aussi.
Surtout à cet âge-là. Et pour cela, Alexandra, elle a fait une demande de renouvellement de passeport et elle avait 100 ans. Moi, je trouve ça très beau.
Oui, j'aime bien.
Alors, elle va décéder peu de temps après, en septembre 1969, donc à presque 101 ans.
D'accord.
Alors, quelque chose de très beau aussi, c'est que ses cendres et celles de Yongden, son fils adoptif, ont été mélangées et elles ont été jetées dans le Gange par son amie Marie-Madeleine. Moi, je trouve ça vraiment très beau comme image.
C'est une belle image,
Et puis, un événement important pour Alexandra, à titre posthume cette fois, c'est qu'en octobre 1982 et en mai 1986, sa sainteté, le 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, est venu à Digne visiter la maison d'Alexandra David-Neel et a inauguré une stèle à sa mémoire.
Oui.
C'est quand même une consécration
quand même.
Pour l'endroit.
D'accord.
Et Marie-Madeleine Perronnet va décéder en avril avril 2023 à 93 ans, et elle s'est occupée de la maison jusque-là, d'accord, et de la fondation d'Alexandra Davinel. Alors, si vous voulez en savoir plus, chères auditrices, auditeurs, lisez la biographie d'Alexandra, écrite par Jean Chalon, on la trouve partout, c'est la meilleure, je pense, très facile à lire. Et bien sûr, tous les écrits d'Alexandra que l'on trouve en format poche. Mmh. Et puis, bah, pourquoi pas, si vous passez par Digne, vous pourrez ressentir un peu de la vie d'Alexandra en visitant sa maison.
Écoute, cet été-ci, il y en a qui passent par là, c'est un détour possible à faire.
Voilà.
Alors moi, en livre, moi j'ai autre chose à proposer.
Ah oui, t'as quelque chose à proposer,
tu connais
Didier,
ma passion de la bande dessinée.
Pour les romans graphiques.
Y a, voilà, y a aussi une bande dessinée en 4 tomes qui est parue aux éditions Bambou, en 2 cycles en fait de tomes, Une vie avec Alexandra Davinel, et c'est plutôt pas mal fait, c'est une belle critique, donc si, pour ceux qui préfèrent avoir aussi des images,
les romans graphiques, les images,
ils peuvent aussi se tourner vers ce livre-là qu'on trouvera,
puis
je pense, encore assez facilement.
Pardon.
C'est pas
oui,
sorti il y a si longtemps, le premier en 2016, mais il y a même eu un intégral qui est ressorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc.
Ah oui, ben ça, il va falloir que je me le procure.
Voilà.
Et puis ben, on attend un film, à ma connaissance, il n'y a pas eu de film sur la vie d'Alexandra. Il faut dire que c'est un film
oui.
qui durerait peut-être plus
d'une heure
trente.
Il va en falloir plusieurs, oui.
Bon, ben, on va quitter le Tibet pour le Japon, Didier, maintenant.
Oui.
Et on va écouter quelque chose que tu aimes bien, c'est le Wagaki Band.
Oui, j'aime bien ce groupe.
Avec la chanson qui s'appelle Isana, c'est dans Asialogie sur Radio Alpa 107.3. C'était Wagaki Band, la chanson Isana, dans Asialogie, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Bon Didier, qu'est-ce que sont les Ikikomori ?
Haha, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, c'est un phénomène qui existe depuis des années. Les années 1990, c'est la situation économique, les crises qui se succèdent au Japon depuis un moment, qui poussent des jeunes hommes, honteux de leur situation sociale, à rester dans leur chambre.
Ouais, c'est terrible.
Oui, on considère qu'une personne devient ikikomori, pardon, lorsque celui-ci, il a passé plus de 6 mois enfermé seul dans sa chambre. C'est la définition donnée par le gouvernement japonais, c'est officiel. Il y en a qui peuvent rester enfermés pendant des années et certains vont même jusqu'à décéder seuls chez eux. Les ikikomori ne sortent pas, ne consultent pas de médecin et comptent généralement en fait sur leurs parents pour survivre, quoi.
Oui,
parce que là,
sûr.
On peut parler que de survie. Ils ne travaillent pas, ils ne font pas d'études, ils ne rencontrent personne généralement, sans pour autant souffrir de maladies mentales.
Oui, c'est une question qu'on peut se poser, effectivement.
Oui, c'est vrai.
Mais alors, quelles sont les raisons profondes ? Bon, bah oui, d'accord, la honte sociale, tout ça, la peur de ne pas réussir. Qu'est-ce qui incite des jeunes hommes, parce que ce sont les jeunes hommes, à agir comme ça ?
Oui, alors, une des hypothèses, c'est le manque de modèle paternel, car au Japon, c'est le père qui doit faire vivre l'ensemble de la famille. Or, le rythme de vie d'un homme qui travaille souvent jour et nuit, qui lui permet pas de partager du temps avec ses enfants. La pression de réussite sociale étant très forte.
Oui, donc le père travaille beaucoup.
Voilà, il est donc peu présent. Et voilà, c'est pas aidant. Il faut savoir qu'au Japon, la misère est très discrète. Les mendiants sont rares. Les pauvres sont toujours parfaitement habillés pour ne pas montrer leurs échecs. Car au Japon, la pauvreté, c'est honteux, voire culpabilisante, ce qui pousserait les laissés pour compte à devenir invisibles. Et ainsi, les hikikomori préfèrent se cacher plutôt que d'affronter les regards accusateurs. Enfin voilà, le Japon aussi un peu quand même. Autre explication possible, alors les mutations culturelles du pays, notamment l'avancée de l'individualisme dans un pays où la collectivité occupait autrefois une place centrale. Alors dans ce contexte, être un hikikomori, c'est une forme de rébellion, les jeunes générations cherchant à se démarquer des traditions.
Oui, c'est une forme de rêve. Ça peut être, enfin, c'est une hypothèse.
Oui, ça fait partie des hypothèses.
De voilà. Alors, est-ce qu'il y a des thérapies possibles, Didier ?
Alors oui, il y a des travailleurs sociaux qui tentent de les sortir de cette situation, mais c'est bien difficile, en fait, la thérapie est progressive. C'est leur faire accepter de répondre au téléphone, de parler à travers la porte, d'inviter les gens chez eux, puis de participer à un programme de réinsertion professionnelle. Enfin, c'est du pas à pas. Bien qu'ils habitent souvent en ville, les hikikomori n'ont pas d'amis. Le phénomène est devenu un problème de société, d'autant plus grave qu'il touche aujourd'hui des gens de tous âges, jusque dans les campagnes. Le gouvernement japonais estimait que leur nombre était à 540 000 personnes en 2016, tout de même. Et puis, pour ça, c'est pour les 15-39 ans. Mais en prenant en compte tout le monde, avec leurs aînés, il serait aujourd'hui plus d'un million de personnes à souffrir de ça.
C'est énorme.
Oui, c'est un vrai phénomène de santé publique important. Pour les médecins, la prévention est de diagnostiquer le mal au plus tôt, en étant attentif aux symptômes classiques de décrochage, problématiques scolaires, isolement, enfin un travail à faire au niveau des parents, quoi.
Donc ce phénomène existe seulement au Japon ?
Non, le phénomène il est né au Japon, mais il se répand petit à petit dans les autres pays du monde, Hong Kong, Oman, Espagne, Inde, Corée du Sud et j'en passe. La France sont aussi touchées. En France, le phénomène est arrivé il y a seulement une dizaine d'années. C'est difficile à ce jour de répertorier avec précision un nombre de cas, mais c'est déjà là.
Didier, Asialogie, c'est fini.
Oui, je savais que tu allais dire ça.
Tu savais, hein. Ça passe vraiment vite.
C'est ça.
Bon, chers amis, n'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis et vos suggestions. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Salut.
À la semaine prochaine avec un plaisir renouvelé. Au revoir.